Bienvenue dans On the Verge, un podcast qui parle de sexualité masculine. Jules, 40 ans, sera l'invité de ce 45e épisode. De ses premiers émois à son rapport à la masturbation et au porno, mais aussi de ses pratiques de boomer, Jules va surtout raconter ses conquêtes sur Tinder et son rapport à cette application de dating qui, comme il le dit, a changé sa vie. Les phrases d'accroche, la gestion des refus, l'organisation des dates scénographiées, une certaine addiction à un moment donné, il va sans tabou expliquer son rapport à l'appli qui a été un pilier central pendant 5 ans de sa vie. Jules va livrer des anecdotes incroyables jusqu'en Équateur, en passant par des rendez-vous cocasses, des ratés ou encore des moments inoubliables et même l'amour. De toutes ces histoires et anecdotes, il en fera un livre, Journal d'un Jules. Je vous souhaite une excellente écoute en compagnie de Jules.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour cet épisode, je suis avec Jules, Jules 40 ans, qui est à Montpellier. Mais avant tout, Jules, comment ça va ?
Écoute, ça va très très bien.
On va rien cacher aux auditeurs, aux auditrices. On a eu un petit problème de son, donc on va essayer d'être aussi spontané que la première fois.
Voilà, c'est mon entière faute, mais voilà, on n'a pas enregistré, enfin, on n'a pas trop parlé encore, donc c'est bon, on va recommencer du début, mais voilà, je m'en excuse.
Heureusement qu'on s'en a aperçu voilà. Hyper tôt. Jules, je vais commencer cette discussion avec la question que je pose à tous mes invités. Jules, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité ?
Donc, mon tout premier souvenir, c'est une demoiselle que j'avais croisée dans une, ce qu'on appelle une boum à l'époque, et que j'avais embrassée, et avec qui j'avais une relation la semaine suivante chez elle. Et c'est un souvenir donc de assez maladroit de ma part, en fait, et assez immature. Et j'avais pas très confiance en moi, évidemment, et puis j'étais assez stressé. Elle, c'était la première fois pour elle aussi, mais elle était beaucoup moins. Donc voilà, c'est un souvenir de maladresse et c'est vrai que voilà, quand je repense un petit peu au chemin parcouru, voilà, je me regarde avec attendrissement, j'allais dire, parce que voilà, je démarrais, voilà.
Tu avais quel âge ?
Je démarrais dans la vie. Voilà, j'avais 17.
17 ans. Et avant ces 17 ans, qu'est-ce qui se passe dans ta vie intime ? Quels sont tes tout premiers souvenirs ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué ? Est-ce qu'on parlait de sexualité librement chez toi ? Comment ça se passait ?
Alors, on pouvait parler librement, je pense, de sexualité chez moi, mais je ne suis jamais vraiment allé vers mes parents pour en parler. Mmh. C'était plutôt, je parlais de ça avec... avec les, voilà, les potes du collège, du lycée, etc. C'était plutôt ça. Et au niveau des souvenirs et des premiers émois, enfin, ce genre de choses, c'était voilà, tout ce qui est masturbation avec, voilà, avec que ce soit des magazines ou des films, voilà, des films porno qui à l'époque étaient diffusés sur Canal+. Il y avait un film porno qui était diffusé tous les premiers samedis du mois. Et voilà, c'était ça s'arrêtait à ce genre de choses-là. Et voilà, donc ça rejoint la première histoire qui me soit arrivée. Mmh. Et puis après, bon, voilà, d'autres ont suivi. Et puis bon, on parlera peut-être de la suite où j'ai eu un grand vide, où il ne m'est pas arrivé grand-chose. Et puis de la suite où j'ai ensuite écrit ce bouquin et parlé de Tinder, où il m'est arrivé beaucoup, beaucoup plus de choses, quoi. Voilà.
Et pour revenir à cette première fois, comment ça se passe parce que donc cette jeune fille, tu l'embrasses à une boum, et ensuite une semaine après, vous vous retrouvez et vous avez cette première relation sexuelle. Comment ça se passe, la découverte du corps féminin à ce moment-là ? Tu t'en rappelles ?
Oui, mais c'est vraiment du stress et de la maladresse. C'est vraiment les deux mots qui me reviennent. Mmh. Alors je sais pas, hein, je sais pas. Il y a peut-être des garçons pour qui la première fois ils claquent des doigts, tout est facile. Peut-être qu'ils sont très à l'aise. Mais moi, me concernant, pas vraiment. C'est un peu la peur de mal faire. C'est un peu ça, hein. Je pense que la pression est due à ce genre de choses. Mmh. Donc, quelque chose d'incroyable et très excitant, et en même temps qui peut tétaniser et couper court, quoi. Voilà. Alors, j'ai eu une érection, etc. Hein, tout s'est bien passé. Mais voilà, c'était un petit peu de la maladresse. Mais c'est vrai que c'est... comment dire, j'allais dire, on est un autre homme. Voilà. Une fois qu'on a passé ce stade et on se dit, on imagine beaucoup, beaucoup de choses sur le rapport sexuel et le premier rapport voilà, qu'on a avec une femme, exactement. Et en fait, avant, en fait, on se fait beaucoup de films. On se stresse, on se dit, mais comment, pourquoi ? En fait, on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Et en fait, après, naturellement, malgré la maladresse dont je parle, quand même, naturellement, en fait, les choses sont là naturellement. C'est, voilà, c'est inné et les choses se passent. Et on se dit, ça y est, voilà, là, j'ai pas, c'est quand même un peu, j'ai passé un cap. J'ai passé un cap, voilà. Et c'était un petit peu ça, quoi, voilà. Et après, je me rappelle un petit peu de discussion avec des potes où, voilà, forcément, on m'a posé des questions après les potes et tout ça dans l'environnement, etc. Comment, pourquoi, voilà. Et je. Enfin, j'ai gardé un petit peu l'histoire discrète, elle aussi, on en a pas trop parlé. Mais après, je n'ai pas recouché avec elle après, en fait. Parce que comme ça s'était passé un peu de façon un peu, pas étrange, mais un peu avec maladresse. Après, voilà, on a un peu repris nos petits chemins respectifs. C'était un peu, voilà, ça, tac, on l'a fait. C'était un peu
t'avais
ça.
T'avais le sentiment, toi, une fois que t'avais fait cette première fois, ça y est, c'était fait, tu t'étais débarrassé de quelque chose qui était ton. Enfin, voilà, l'état de puceau au collège-lycée. Est-ce que tu as eu le sentiment de cocher une case ?
Oui, il y a un peu de ça, mais c'était plus pas la fin d'un aboutissement en disant ça y est, je l'ai fait, mais au contraire de je commence.
C'est intéressant.
Voilà, okay. C'est je commence. En fait, beaucoup de peur, en fait, c'était abattu, puisque maintenant je savais comment c'était. Et parfois, voilà, on peut être tétanisé. À mon avis, plus on attend, plus ça doit être difficile quand on a un peu peur et qu'on laisse un peu traîner les choses, quoi. Et moi, voilà, à un moment donné, je savais que si jamais à un moment donné mon premier rapport arrivait ou que quelque chose se produisait, je me suis dit, enfin, dans ma tête, je me rappellerais me dire, tu réfléchis pas, tu y vas, fais-le. Parce que de toute façon, dans ma tête, je me rappelle très bien me dire, sinon, ça se repoussera plus tard et tu seras encore en train de te dire, est-ce que j'y vais ou pas? Et en fait, il faut surtout pas fonctionner comme ça. Et moi, c'est vrai. Et je suis plutôt du genre fonceur. Et quand il faut prendre un risque ou aller vers quelque chose, voilà, je suis plutôt du genre à, je prends le risque et je vais voir. En fait, voilà. Okay. Et c'est mon fonctionnement a toujours été comme ça, pas seulement voilà dans la relation que j'ai avec les femmes, mais de manière voilà dans mon boulot quand il faut tenter des trucs, n'importe quoi, ou voilà il faut que quelqu'un tente un truc, voilà je vais être celui qui dit moi je veux bien y aller. Si personne veut tenter, moi j'y vais, il y a pas de souci.
Ça a tout de suite été les femmes pour toi ?
Oui.
La question s'est jamais posée ?
Non.
Réponse.
Là, je peux pas être plus clair, mais c'est vraiment. C'est vraiment une certitude, mais à 1000%. Voilà, la question c'est, n'a jamais varié. Elle aurait pu, hein, je ne suis pas...
Bien sûr.
Dans l'esprit, je suis fermé à rien. Je suis un garçon assez ouvert dans la façon de rencontrer les gens, d'échanger des idées, de parler de plein de sujets. J'ai pas de porte fermée. Mais après, il y a des choses, je me sens très clairement... hétéro, etc. Il est très, très attiré par les femmes. Il est fou amoureux des femmes, quoi. Ça,
même
c'est clair.
Même sans être voilà. Homosexuel, il y a les fameux comme Vincent qui a un invité qui avait 70 ans qui appelait ça avec beaucoup de tendresse les hétéro-curieux. Lui-même est homosexuel et il a eu nombre d'amants hétéro-curieux.
Ouais.
Donc, tu perds ta virginité à 17 ans. J'imagine qu'après, tu continues quelques petites flirt, en tout cas tu vas passer après le cap du lycée. Comment se passe alors cette vie, cette entrée dans la vie sexuelle, donc avec du coup impatience, parce que pour toi ça ouvre le début de quelque chose.
Ouais.
Comment tu l'appréhendes et comment ça se concrétise ?
Plutôt bien. Après, c'est tout ce qui est soirée, avec les potes, etc. Ou voilà, ça boit de l'alcool, on sort, etc. Et puis des rencontres se produisent.
Boire, bien sûr.
Voilà, à consommer avec modération. Je parlais de boire des verres d'eau, bien évidemment.
Bien sûr. Ou du jus d'ananas.
Voilà, le jus d'ananas. J'aime beaucoup boire du jus d'ananas, très très souvent. Ouais. En fait, je me suis toujours estimé un peu entre guillemets dans la moyenne, quoi. J'ai croisé des filles. Alors ça, par exemple. Alors par rapport à l'histoire dont on va parler après, Tinder était vraiment un accélérateur, ça a modifié complètement ma vie et mon rapport aux femmes, mais ma vie, on va dire, tout ce qui est adolescent et après début d'adulte, etc., les études, etc., j'ai pas eu plein d'histoires, j'ai pas été un séducteur, une machine à séduire, j'ai pas du tout été ça. J'ai eu quelques histoires par-ci par-là et même une période plus tard quand j'ai commencé à bosser où j'étais dans une petite ville où il m'est absolument rien arrivé, je n'ai couché avec aucune femme pendant 3-4 ans. J'ai eu un moment clé où mes amis à l'époque me demandaient mais comment ça se fait. Moi j'étais dans ma petite ville, j'avais mon petit boulot, etc. Je croisais quelques filles mais pas grand monde et j'avais besoin d'être comment dire, j'ai besoin qu'il y ait un truc quand même. Voilà, c'est, j'ai besoin qu'il y ait un truc. Et
c'est, ça m'a. C'est quoi un truc? C'est quoi la définition du truc?
J'ai du mal à mettre un mot dessus. Mais
t'as quel âge à peu près à cette période-là?
Sur les coups de fin de vingtaine, en fait. Fin de vingtaine, ça a commencé un petit D'accord. peu à se réveiller. Et en fait, j'ai quitté la petite ville où j'habitais. J'ai trouvé un super boulot, en fait, dans une plus grande ville. Bon, voilà, je bossais, en fait, dans une agence de com où il y avait pas mal de jolies demoiselles, etc. Et là, en fait, je me suis retrouvé, en fait, catapulté dans une autre vie. En une semaine, je me suis retrouvé...
T'as tout plaqué, t'as déménagé et tout ça.
Ah oui, j'ai laissé tous mes meubles, j'ai tout laissé tomber. J'ai pris un sac, je suis parti. Le patron était un petit peu un tendu. Et en gros, il m'a expliqué, quand je suis parti passer mon entretien, dans les bureaux, il était en mode, on te prend tel salaire, tel truc, tu commences demain. Et j'ai fait, non, j'habite à 400 bornes. Il me fait, il a regardé le RH, il lui a dit, il y a qui d'autre sinon? C'est-à-dire, en une seconde, le mec voulait m'embaucher, voulait me virer. Et j'ai réussi à négocier 3 jours. Le temps de rentrer, en fait, juste de dire à mes parents, je laisse mes meubles, je sais pas, je vais aller sur le bon coin, j'ai trouvé... Après une coloc dans le week-end à l'arrache avec une piscine et plein de gens dedans et tout, j'ai fait est-ce que je peux arriver? On m'a dit il y a une petite chambre dans un petit coin. Et donc je suis arrivé dans cette ville. Et là, entre les rencontres que j'ai faites avec l'agence et après la découverte de Tinder, etc., par un de mes colocataires qui m'a présenté l'appli, mes rencontres avec les femmes, ma sexualité était. Elle a explosé en fait. Elle a explosé.
D'accord. Là les compteurs ont pété.
En fait, il y a un moment donné là où ça a explosé.
Donc là, t'as une petite trentaine à ce moment-là?
Ouais, voilà, exactement. Je me suis rendu compte, en fait, que j'avais des facilités pour faire des choses que d'autres garçons ne prenaient pas le temps de faire.
Alors,
c'est-à-dire, par exemple, la langue française, les mots, et la façon d'exprimer des émotions à travers des mots, de faire attention à ce qu'on écrit, de susciter une sorte de... d'être imaginatif, inventif et de bien utiliser les mots. Et ces applications, ça passe par le texte. Et c'est vrai qu'avant, j'ai jamais utilisé les applications comme Mythic et tout ça. J'ai jamais voulu payer en fait pour une appli. Même si je rencontrais des gens, etc. Mais l'idée de payer m'a toujours posé un problème. Voilà, un problème philosophique. Après, chacun, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais dans mon esprit.
Payer pour rencontrer, tu veux dire?
Dans l'esprit, en fait, même payer 10 balles, 5, enfin le principe d'aller payer pour aller sur une application qui présente des femmes, ça me pose, je sais pas pourquoi, ça me bloquait.
Okay,
ça,
je comprends.
Donc
l'échange,
en gros,
en fait. C'est l'échange financier.
C'est cette idée-là. C'est pas une question de quel est le prix de ce truc. C'était pas ça. Et comme je rencontrais des femmes dans la vraie vie, je me dis je m'en fous. J'en ai pas vraiment besoin. Et c'est vraiment quand mon colocataire m'a montré comme ça par hasard l'application Tinder, où là c'était très léger, très simple. Il y avait pas plein de trucs à remplir. C'était très facile. La force de cette application à l'époque quand elle est apparue, c'était presque comme un jeu en fait, hein, au milieu de plein d'autres petites applications. Mm-hmm. Quoi. Quand ça a débuté, je me rappelle très bien que ça avait une image plutôt marrante, positive et sympa. Que voilà, l'application, elle a commencé avec le temps à avoir un peu plus une mauvaise image. Et puis, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est parce que les gens vont dessus, ils leur arrivent où ils sont pas très adroits et puis ça se passe pas bien et donc ils sont pas contents et ils tirent à boulet rouge sur cette application, ou est-ce que c'est des gens qui sont mariés, qui sont en dehors de ce système et qui sont un petit peu frustrés parce qu'ils se rendent compte que maintenant, quand on est en couple, marié, stabilisé, qu'on voit qu'en face, maintenant, avec un bouton 3 clics, on peut rencontrer plein de gens et vivre des trucs. Ça peut peut-être agacer. En fait, j'ai pas la réponse, hein. J'en sais rien. En fait, j'ai du mal à comprendre, et c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin à un moment donné, c'est pourquoi, en fait, cette application est un autant décrier, alors que c'est un super outil pour croiser du monde, hein, j'allais dire entre guillemets. Alors ça a démarré, on va être franc, comme une appli pour des plans cul. Je reste sur cette idée là on dit non, je sais pas, on dirait qu'il y a une variation dans la façon de percevoir les choses. Je vais prendre juste un exemple avec Mythic. Je me rappelle quand même qu'au début, les gens qui utilisaient Mythic, j'avais des potes garçons et filles qui utilisaient cette application, donc je voulais pas aller, mais je me rappelle que les gens qui allaient sur Mythic, au tout début, on disait, en fait, c'est les losers qui sont pas foutus de draguer dans la vraie vie, donc ils vont là-bas et c'est des losers. Le truc, c'est que l'application dans l'ombre, elle a quand même marché parce que les gens allaient voir, etc. Et en fait, à un moment donné, il y avait tellement de gens dans les entourages des gens qui se mariaient, qui commençaient à rencontrer. Et là, en fait, c'est devenu tellement mainstream qu'on pouvait plus flinguer l'appli puisqu'on avait toujours forcément quelques personnes autour de nous qui l'utilisaient. Donc, il y a eu un côté pour moi, c'est pas bien. Ah merde, maintenant lui il est marié avec Mythic, lui il a rencontré machin de Mythic, elle a fait ça. En fait ça y est, et c'est devenu mainstream et maintenant Mythic normal.
Oui, et puis après il y a une question de perception aussi,
bien sûr,
de toi et qui a évolué et les tendances. C'est vrai que ta génération à 40 ans a vraiment découvert, il y a eu la venue de ces applications de rencontres, c'était complètement nouveau et très excitant, etc.
Ouais,
et là,
voilà.
Les jeunes gens d'aujourd'hui...
Ouais. Ils sont habitués, bien sûr.
Mais ouais, bien sûr, ça fait partie de leur langage. C'est le mode de communication et encore plus dans ces années particulières que sont 2020 et 2021 où la rencontre dans les lieux de mélange, que ce soit des bars, des restaurants, etc., des boîtes de nuit, bah, c'est impossible avec la pandémie. Donc, encore plus que les applications sont complètement normativées dans leur quotidien et leur façon d'échanger avec les autres.
Oui,
c'est
oui,
vrai
bien
que
sûr,
ça fait
ouais.
partie d'une génération qui a eu un
exactement.
Vrai avant-après. Quoi.
Voilà, exactement, okay. L'avant-après.
Donc,
ouais.
Pour rentrer dans le vif du sujet, donc tu commences à fréquenter Tinder, qu'un de tes colocs... te fait découvrir. Et comment ça se passe les premiers matchs? Est-ce que tu vas sur des comportements un peu addictifs où justement tu vas un peu être en compulsion, ou est-ce que tu vas faire très attention au choix des matchs? Comment tu l'appréhendes?
Je me rappelle très très bien, j'ai trouvé ça incroyable. Incroyable, vraiment. Quand la première fille avec qui j'ai matché, parce que mon colocataire donc m'a montré ça en rigolant et tout ça. Puis un jour ou deux après, j'étais dans ma chambre, je l'ai installé. Et en fait, on a l'impression que c'est pas possible en fait. Je sais pas comment expliquer. Ça paraît trop trop beau pour être vrai. Parce que moi, je me rappelle très bien des années avant, quand ces applis n'existaient pas. Je me rappelle où à une époque j'étais célibataire, je me disais mais si ça se trouve il y a une fille qui est super bien, qui est à trois rues de là, et moi je suis comme un con ici. Et en fait, si on était connecté, eh ben je pourrais la voir, quoi. Et là, je me disais toujours autour de moi, là, il y a des filles célibataires qui ont mon âge, mais je suis obligé d'attendre qu'il y ait une soirée, un truc, un machin, et se rencontrer par hasard et tout ça. Et là, c'est terminé. C'est-à-dire que cette application, ça réalise cette espèce de fantasme de cette époque où je me dis, eh ben ça y est, en fait, maintenant, c'est dans mon téléphone.
Oui.
Et s'il y a des filles autour qui veulent rencontrer un garçon, elles sont là. Donc la première fois que je match, ouais, c'est incroyable. Et je parle à une première fille avec qui je discute. Et après, addictif, je matchais pas, enfin comment dire, swiper à l'infini tout ce qu'il y a, quoi. Vraiment, non, j'étais extrêmement mesuré. Je regardais, je lisais le texte dans le détail. Oui, non, qu'est-ce que je fais? Voilà, j'étais vraiment, je prenais mon temps, voilà, là-dessus.
Est-ce que tu avais une phrase d'accroche
J'en ai une qui n'a pas au début, mais très vite je l'ai trouvée, je l'ai gardée, ouais. Ouais, ouais.
Est-ce que tu peux la dire ou pas?
Oui. Elle est connue parce que j'ai même eu une fille que j'ai matchée il n'y a pas très longtemps en Tinder. Elle me dit « Ah, mais c'est toi le titre du livre. » Donc, quelqu'un a dû lui parler du bouquin. Ou voilà. Mais elle m'a grillé, en fait. Mais après, je ne suis pas caché là-dessus. Je n'ai pas de problème. Donc, ma phrase d'accroche, oui, c'est « Hola, bracadabra ».«
Hola, bracadabra ».
C'est la contraction d'un bonjour en espagnol, « Hola ».
Ok, « Hola », d'accord.
Et le bracadabra pour le côté tour de magie, surprise, voilà, c'est ça l'idée. Voilà. C'est presque devenu un gimmick. Quand je commence, c'est le premier truc que j'écris.
Premier
toujours.
Contact.
Et après, dans la façon que j'ai de parler, je disais, j'aime beaucoup les mots et la langue française et bien écrire. Et le concept qui est souvent décrit, et je comprends les femmes, elles doivent recevoir plein de messages de mecs qui écrivent « ça va, ça va, ça va, ça va ». Les mecs n'ont aucune créativité, font pas d'effort du tout, c'est un truc que je comprends
le
pas
coucou,
du tout.
Le coucou, ça va, tu sais,
voilà,
C-C-S-A-V-A.
Et voilà, et ça veut vraiment dire, j'en parlais à un pote qui avait du mal un petit peu là, à matcher des filles, etc. à Toulouse, et il galère, bon, il fait pas attention à ça, et je lui disais, en fait, moi, dans mon esprit, si tu fais attention, c'est la porte d'entrée, la première quand tu matches, c'est les mots.
Ouais,
donc, si tu fais pas d'effort sur les mots, que tu mets pas d'attention là-dedans, moi, je suis une femme en face de moi, je suis la femme, je me dis, mais s'il fait déjà pas d'effort pour ça, mais qu'est-ce qu'il fera après pour moi? Et donc, moi, dans ma façon d'aborder les choses, ça doit être original et ça doit partir dans une direction où je me dis les autres mecs vont là, mais moi je vais pas là, je vais aller là-bas. Et à chaque fois je fais ça, et toutes les histoires ou les discussions que j'ai eues souvent, ça ne part jamais dans la même direction. J'évite vraiment le tu travailles où, ça va, coucou, enfin tous ces trucs là, je les fous de côté presque, je m'en fous, je me dirais on verra ça plus tard si on boit un verre ou on en va dans la discussion après. Le but pour moi, le départ. Il faut que j'aime bien vivre en fait des choses autant dans les rendez-vous que je vis que dans ce que j'écris, que ça soit original et que ce soit un truc pas vécu. Voilà, on peut pas comparer et je voulais pas rentrer en fait. Et encore une fois, je pense que c'est fuir ce cadre justement industriel où quand on croise beaucoup plus de monde avec ces applis, où je me dise pas voilà, j'ai un catalogue avec des mots-clés et puis je fais copier-coller et puis voilà, je me fais pas chier. Et Enfin, je trouve ça horrible, en fait. Ça me plaît pas. Mm-hmm. Je vais essayer d'aller dans des sujets extrêmement provocants ou alors une question auxquelles on s'attend pas du tout.
Ben, c'est quoi, par exemple ?
Et je suis dans la surprise permanente, quoi. Ben, soit je vais commencer... Je sais pas, hein, ça change tout le temps. Donc, ça va être soit des... Soit je vais poser une question très précise sur ce... Je sais pas si la meuf a un chat, mais sur son chat et ses habitudes. Et est-ce qu'elle s'est déjà demandé pourquoi il faisait ça ? Ou alors, je vais poser une question... sur le, tu sais, les choix, les trucs à choix, genre mer, montagne, ta mère, ton frère, voilà, enfin des trucs, ça peut être un jeu. Ou alors je veux dire, j'ai une photo très importante à t'envoyer. Ou alors je dis, par exemple, je vois que je suis rentré dans ton salon Tinder. Écoute, je vois que t'as un petit canapé là, sympa, je m'assois là, tu te sers un petit café. Et en fait, je construis une histoire comme si notre rencontre, c'était pas une rencontre virtuelle avec des mots, mais qu'on est, en fait, on était dans une chambre Tinder, en fait une salle avec une lampe, un truc, et qu'on était là, et je vais faire ça. Ou alors, un autre coup, je vais raconter une histoire. Je vais, par exemple, si la fille s'appelle, par exemple, Julie, je vais pas commencer la phrase en lui disant « Coucou, ça va ?» Je vais commencer en disant « Julie vient de matcher Maxime. Julie vient d'aller faire ci. Julie vient d'aller faire ça. Elle se pose des questions sur ça. Elle se demande si ce garçon qu'elle a croisé, voilà. Et je vais raconter en fait une histoire qu'elle a peut-être matchée avec un autre gars. Enfin voilà, je vais m'amuser à raconter et à inventer une histoire comme si j'écrivais un livre que j'invente. Donc je pourrais parler de Julie avec, tu vois, je vais complètement inventer un truc. Ou alors je vais parler, après je vais revenir à ça, elle comprend que c'est des petits chapitres et je vais arriver sur le chapitre avec Jules et en disant, et voilà, maintenant la voici en face de Jules. Et Jules va s'adresser à elle. Et après, j'ouvre les guillemets et je parle. Et en fait, ça devient un bouquin dont elle est l'héroïne et dont je suis le héros. Et je me promène. Et parfois, je peux carrément commencer à écrire. Et je vais écrire pendant 20 minutes. Et la demoiselle va me dire la suite, la suite, la suite. Et je vois qu'elle est accrochée. Et je vais faire que ça. Et en fait, on n'a pas parlé de où elle habite, de qu'est-ce qu'elle fait, de combien elle gagne, enfin, je sais pas quoi, de dans quel bar on va se retrouver. Ou alors, plus grassement, parce qu'il y a des mecs qui sont plus brutaux encore dans leur façon d'aborder les filles pour juste... leur demander leur petite paire de fesses. Mais voilà, moi, l'idée, c'est d'être créatif et d'aller voilà, dans une discussion où je me dis en face, j'ai apporté quelque chose d'un peu différent. Et donc, déjà, pour moi, ça me fait plaisir. Et je pense aussi qu'on met déjà une première pierre où on marque des points. Et je pense que, en fait, c'est gagnant sur toute la ligne pour elle, pour moi et pour la suite de l'histoire qui peut se produire ou non. Voilà.
La question, Jules, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Pourquoi tu mets autant d'énergie devant un profil Tinder ? C'est une question qui est à la fois facile à répondre et qui est finalement un peu plus complexe
non,
que ça.
Non, c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un profond besoin de me sentir utile en fait, pour les gens. J'ai toujours été un peu comme ça derrière. Je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, il faut que j'apporte un truc. Je ne peux pas arriver les mains vides. Voilà, mais dans tout ce que je fais, je suis très généreux dans l'esprit, quoi que je fasse, hein, que ce soit dans les rencontres avec des femmes ou dans le boulot ou rendre service, voilà, je suis là, je suis présent et j'essaie d'apporter des trucs et je suis jamais assez content de moi. Donc dans ce truc-là, je me dis, on peut pas arriver sur cette application, en plus qui est un peu décrit et machin, et presque, je vais vous montrer qu'on peut avoir autre chose. Et là, par contre, quand la machine se met en route, c'est presque, même si la séduction ne fonctionne pas forcément et qu'après elle me supprime, ça lui va pas, peu importe. Moi, mon idée, c'est que ça soit original, créatif, et qu'on vive un truc un peu, voilà, qui sorte de l'ordinaire, et parce que moi, ça, j'ai beaucoup de plaisir à ça. La routine, c'est quelque chose que je déteste.
C'est un peu abrupt ce que je vais te dire, mais au-delà effectivement de sortir de l'ordinaire et d'être altruiste à travers ça, est-ce que c'est pas aussi une façon de faire la différence par rapport à tes partenaires, enfin on va dire les concurrents ou en tout cas les autres hommes sur l'appli? C'est pour aussi montrer que t'es pas comme tout le monde.
Ben oui, mais après quand je le fais, je me dis pas je veux démontrer que je suis mieux que truc ou j'ai fait plus fort que truc. Je m'en fous complètement. Enfin sur cette partie-là, en fait. Je sais pertinemment, je le raconte dans mon bouquin, je le dis dans un chapitre, il y a des tas de types qui sont bien mieux que moi, d'autres qui sont moins bien. Je suis complètement perdu au milieu de ça et je n'aurai jamais les réponses pour dire je suis plus fort parce que ci, parce que ça. C'est juste, moi, c'est ma façon de fonctionner et dans ma petite bulle, je fais ça. Après, les autres mecs autour, ils font un peu ce qu'ils veulent et tant mieux. Et même sur le bouquin, hein, je dis aussi, moi, j'ai écrit ce bouquin parce qu'aucun mec n'a rien écrit là-dessus. Mais après, sans doute, il y a des hommes qui, sur Tinder, ont rencontré ou ont fait des choses beaucoup plus incroyables que moi, très probablement. Mais pour autant, je ne me place pas en position de champion du monde de la séduction ou pour dire avec un mégaphone, regardez ce que j'ai fait. Moi, j'ai vraiment écrit le truc en disant, regardez un peu ce qui peut se passer sur l'appli. Et puis au passage, on voit que je suis, voilà, j'ai un côté créatif. Si j'écris le livre, encore une fois, ça rejoint l'amour pour les mots. Et le fait d'avoir écrit le bouquin, c'est pour, entre guillemets, un hommage pour dire, en fait, c'est un grand merci, en fait. Un merci à l'appli qui existe et qui m'a transformé ma vie. Et un merci aux femmes, voilà, qui m'ont côtoyé un temps plus ou moins long et qui m'ont croisé. Et avec qui on a vécu des choses, quoi.
Et justement, alors, ces choses que tu as vécues avec les jeunes femmes, qu'est-ce que tu peux parler de certaines histoires? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été, en termes de sexualité, assez incroyables? Est-ce qu'il y a eu des découvertes? Est-ce qu'il y a eu des gros fails? Est-ce que tu arrives un peu à hiérarchiser ce qui s'est passé et le partager?
Oui. En fait, il y en a beaucoup, parce que je suis toujours un peu... Je me balade sur l'appli, mais je me suis calmé quand même depuis, j'avoue, hein, voilà.
Mais t'as rencontré combien de femmes en 5 ans ?
Je sais pas. Tinder envoie un message, en fait, quand on atteint les 1000 matchs. Donc, je me rappelle que j'ai reçu un message un jour qui dit 1000 matchs. Alors, depuis, je pense que ça a encore dû monter.
Mais t'as pas conclu à 1000 matchs, voilà.
Non, pas
1000 femmes.
Pas du tout. Mais après, en nombre de femmes en 5 ans, combien ? Je t'avoue que je fais pas un classement, un truc...
T'as pas un petit cahier, t'as pas un petit tableur Excel qui traîne, tout ça?
Non, je sais pas, j'ai dû croiser, coucher avec, je sais pas, j'ai entre 50, 100 femmes, un truc comme ça, je sais pas. Et des fois, ça a vraiment été des plans d'un soir, donc ça m'est arrivé d'avoir, plusieurs filles sur une période raccourcie, j'ai dit n'importe quoi, 3-4 semaines, et parfois, je suis resté, j'ai eu deux histoires beaucoup plus longues, dont une où je suis resté un an avec une fille et où je suis pas du tout allé sur l'appli, quoi. Ça me convenait très bien là, avec elle. Donc, j'ai vraiment eu, tout type de femmes, et je pense que j'avais un goût vraiment, un goût de découverte très puissant et d'aventure, et dans mes goûts même physiques.
Te demander, justement, est-ce que tu as un type de femme ?
Et je me suis rendu compte que pas vraiment. J'ai des préférences, mais globalement, je pense que j'ai clairement une part sapiosexuelle, d'une part. Mais après, physiquement, qu'elle soit filiforme ou avec plutôt des formes, blonde, rousse, plutôt avec un tempérament dur ou plutôt un petit peu très timide. En fait, je me suis toujours adapté et comme je voulais vivre forcément des aventures et des choses très différentes, mais je pense que même inconsciemment, entre les histoires que j'ai vécues, j'ai ouvert la porte à des choses très différentes.
D'accord.
Donc, après des anecdotes, je peux t'en raconter, j'en ai presque trop, mais...
L'anecdote qui t'a... Enfin, en tout cas, la rencontre qui a été un gros fail pour toi.
En fail, je te parlerai rapidement de... Il y a un chapitre qui s'appelle « La débandade », qu'il faut bien aborder pour tous les garçons. On le vit tous, je crois, à un moment donné. Et pour faire rapidement, c'est une demoiselle que j'avais croisée à Lyon. On a dîné dans un restaurant, on est allé chez elle. Ça se passait bien, tout allait bien. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Très concrètement, on n'a pas couché ensemble. En fait, elle était belle, désirable, mais je ne bandais pas sans que j'arrive à mettre deux mots là-dessus, ce qui n'avait aucun sens. Bon, ça m'était rarement arrivé et je comprenais pas, quoi. Je comprenais pas quelle était la problématique. Et cette demoiselle, en fait, le seul truc, c'est qu'elle avait, on en a parlé un petit peu après, elle avait un petit côté un peu garçon manqué dans sa façon de s'habiller. Il y avait plein de petits trucs, en fait, comme ça, que j'ai analysé après le coup. Peut-être je me trompe, mais il y avait ces trucs-là. Et je me rappelle que je lui ai dit, est-ce que tu pourrais venir la semaine d'après, viens chez moi, mais par contre, est-ce que tu pourrais pousser un peu les trucs féminins que tu n'aimes pas trop pousser pour voir ce que ça donne, voilà.
Okay.
Et elle est revenue, alors elle m'a engueulé en arrivant parce qu'elle me dit, je te remercie pas parce qu'un connard m'a traité de salope dans la rue parce que j'étais habillé un peu sexy, voilà, donc elle m'a un peu engueulé. Mais bon, quand elle est arrivée, je lui ai sauté dessus, j'ai pas perdu une seconde pour, et là, ça a très 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 bien marché. Et j'étais très content, je me suis dit, c'est réglé. Et tout va bien se passer, ça va être génial. Et en fait, dès 2-3 jours après, on s'est retrouvés, je suis retourné chez elle, et elle avait repris un peu ses habitudes, et un peu tous les trucs qui, en fait, m'éteignaient. Et c'était autant sa façon un petit peu, peut-être un peu froide et distante d'aborder les choses, même si elle était contente d'être avec moi, sa façon de s'habiller, donc un peu masculine, elle se maquillait pas, je me rends compte que je suis très, très sensible à ça, voilà.
Donc finalement, t'as quand même un style, t'aimes quand même les femmes très féminines.
Ouais, ouais. Ah oui, alors là-dessus, ouais, par contre, oui, voilà. Mais après, on pourra parler, la dernière demoiselle que j'ai croisée, en fait, je suis tombé amoureux une fois sur Tinder. On en parlera peut-être à un moment donné. Et elle n'était pas forcément très féminine, mais elle avait d'autres trucs qui m'ont... Comme quoi, voilà, c'est très complexe, les trucs qui font qu'on tombe amoureux ou qu'on est accro d'une femme. Mais voilà, pour revenir à cette demoiselle, donc voilà, elle n'avait pas l'intention, entre guillemets, de faire d'efforts. Elle était comme ça. Elle me disait, moi, c'est ma vie, je suis comme ça. Et voilà. Sûr. Et je dis, ben, il n'y a pas de problème, voilà. Et donc, on a réessayé, ça n'a pas marché. Et le matin, c'était un peu une... C'était presque joli et tendre comme situation parce qu'on s'est pris dans les bras. On a compris que ça n'irait sans doute pas plus loin parce que ça ne fonctionnait pas sur le plan sexuel et charnel. Et on a bu un café un peu comme un couple, comme ça. C'était un peu étrange et on a discuté un peu de choses un peu futiles. Et puis, je lui ai fait la bise, je suis parti. Et c'est une fille que je n'ai jamais revue. Voilà. Mais elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas responsable. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Peut-être que je ne bandais pas pour d'autres raisons techniques ou biologiques qui dépendent de moi. Après, d'autres situations un peu désagréables... J'ai croisé une fille.
Revenons sur cet échange. Donc, tu n'as pas d'érection, mais du coup, vous n'avez pas de rapport.
Non, je ne peux rien faire. Donc, par contre, j'ai.
Bien sûr que si, tu peux faire d'autres choses. Mais.
Ouais, non, non, mais j'ai fait d'autres petits trucs. Mais à un moment donné, une fois que tu as fait ces petits trucs sympas, tu reviens quand même devant ce mur, en fait.
D'accord.
Tu vois ? Donc, moi, oui, je pouvais lui faire plaisir, tout était possible. J'ai aucun. Voilà, je peux tout ce qui est câlin préliminaire, je suis vraiment une machine là-dessus, c'est interminable ce que je fais, c'est interminable.
Alors, du coup, on va enlever dans ton vocabulaire préliminaire parce que finalement, un rapport sexuel, ce n'est pas la terminologie d'un rapport sexuel, c'est pas forcément la pénétration vaginale, ça peut être tellement d'autres choses.
Oui, je comprends, mais pour elle voulait ça.
Je suis très taquine là-dessus, hein, pardon, mais c'est vrai que c'est juste se dire que pour les femmes qui n'aiment pas la pénétration, il y en a beaucoup. Au final, qui n'aiment pas être pénétrées par un pénis, en fait, elles ont aussi des rapports sexuels. Et il y a des hommes qui n'aiment pas. Et j'ai invité des hommes qui ne pénétraient pas tout le temps leur partenaire avec leur pénis. Et c'était des rapports sexuels hyper intenses. Et pareil, l'appellation préliminaire, ça veut dire que c'est le prémisse de quelque chose et donc un aboutissement obligatoire. Alors que non, tu peux avoir un rapport bucogénital et c'est le rapport sexuel.
Oui, je comprends.
Tu vois ce que je veux dire ? Mais voilà. Je te taquine évidemment là-dessus.
Pour compléter, en fait, c'est que tout simplement, elle, la pénétration, elle kiffait.
C'est important pour elle.
Et moi, j'étais là, et moi aussi, ça me plaisait bien. Et à un moment donné, on faisait tous les trucs possibles et imaginables. Mais voilà, on est. Alors, on peut jouer avec un petit jouet, tout ça, je te passe les détails de tout ça. Mais l'essentiel, ce truc-là, on en avait envie tous les deux. Et je ne sais pas pourquoi, de mon côté, c'est un truc qui ne fonctionnait pas. Avec cette femme-là, c'est souvent une interrogation en tant que garçon, hein, parce que tu regardes cette femme, elle est vraiment magnifique. Tente de trouver des explications, alors parfois un peu irrationnelles, et puis on est un peu rassuré par la demoiselle. Et puis après, je me rappelle qu'on rentre, et quand ça se produit de temps en temps pour un garçon, on se dit « Ah ben ça y est, c'est fini ». Le truc est éteint, il ne se passera plus rien. Et on a cette inquiétude que le truc soit éteint pour toujours. Et en fait, pas du tout. Voilà, je me suis vite rassuré par la suite. Voilà.
Spoiler, mais non, ça remarche.
Ouais. Et après, un autre fait ou un truc très désagréable. Alors, je ne suis pas désagréable avec les femmes et tout ça, mais il y a une fille que j'ai dû mettre... En fait, je vivais dans une colocation à une époque et j'ai rencontré une fille, très, 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 très belle femme, auquel d'ailleurs, je n'avais pas cru. Quand elle m'a matché, je me suis dit, elle n'existe pas parce qu'il y a beaucoup de fake et de faux profils et compagnie. Et elle a continué à insister, elle voulait me prouver que si, quoi. Et elle me dit, on va se retrouver et je vais te prouver que j'existe. Mais après, je me casserai. J'ai fait, d'accord. Et je suis arrivé et je vais juste fermer ma gueule. Voilà, j'ai juste fermé ma gueule, j'étais dans mes petits souliers parce que elle était exactement ce qu'elle avait dit. Et malgré tout, je lui ai dit, dans ma tête, j'avais perdu. Je lui ai dit, avec les conneries que j'ai dites, elle est là, elle a les clés, elle a le pouvoir, elle a totalement raison. Et elle peut se casser. J'avais aucun problème avec le fait qu'elle se barre et qu'elle me dise bonne soirée, qu'elle se tire. Bon, elle ne s'est pas tirée. On a bu un verre, on a discuté sur le fait que j'étais un con là-dessus. On a un peu échangé sur pas mal de trucs. Et d'un coup, on s'est trouvé plein de sujets en commun. On a commencé à avoir une relation, à coucher ensemble, etc., à découvrir des trucs. Elle était plutôt très, très ouverte sur la sexualité. C'était donc très, très bien pour moi aussi, parce que j'aime bien ça.
C'est quoi une femme très ouverte sur la sexualité ?
À toutes les pratiques possibles et imaginables, de tout ce qui est en sexualité, gorge profonde, sodomie, mais très rapidement, comme ça, sans aucun tabou. Et une façon de parler, de proposer des choses comme ça, très, très librement. Et on fait tout ce qu'on veut, comme on veut, comme on a envie. Il n'y a aucune barrière, il n'y a rien, en fait. Parce que souvent... J'ai croisé quand même pas mal de filles où c'est un peu parfois il faut mettre les formes, le temps, etc., ce qui me pose pas de problème. Mais des fois, ça arrive aussi. En fait, tout est simple, tout est rapide, tout est efficace. En fait, le mot tabou n'existe pas. il n'est plus là.
Et toi, dans l'autre sens, t'as des tabous ?
Oui, elle m'avait proposé pour parler crûment tout ce qui est plaisir de la prostate et compagnie, avec un doigt dans le cul et compagnie, et c'est des trucs qui ne m'ont jamais trop attiré.
Est-ce que tu ne penses pas, Jules, que c'est un truc de génération, ça ?
Mais complètement, peut-être, je suis un old school et que ce n'est pas mon truc.
Bah, alors, je n'allais pas te dire old school et je ne te dirais pas ok boomer parce que ce n'est pas cool, mais c'est vrai que tous les jeunes hommes que j'ai interviewés entre 20 et 30, ouais, je vais faire voilà, une grosse patate comme ça.
Ouais.
C'est ok, c'est inclus dans la sexualité, c'est pas enfin, évidemment, là, pas tous à 100%, mais c'est toutefois inclus dans la sexualité, complètement. C'est-à-dire que c'est même pas un, tu vois, ça fait partie d'une sexualité presque basique.
Eh bien, écoute, je prends mon titre OK Boomer avec grand plaisir. Mais vraiment, ça me convient, tu vois. Je me fais un petit t-shirt, je le prends. Voilà, ça me va.
Miss France, tu vas le mettre en écharpe.
Mais il n'y a aucun problème. Mais je suis fier de représenter la communauté.
Et c'est vrai
OK
que les hommes entre 35 et 45, 50, c'est compliqué. C'est pas forcément non, mais c'est compliqué.
Mais
et après,
sans doute,
j'ai remarqué que les hommes un peu plus âgés d'une cinquantaine d'années, puisque justement, c'est là où arrive le pic des troubles d'érection pour diverses raisons, et donc du coup, la stimulation prostatique redonne un peu de pouvoir à l'érection. Et c'est vrai que c'est là où effectivement ça revient.
Et ça revient encore une fois à ce que je te disais au niveau de l'ego, de est-ce que je fais mieux ou plus ou moins que les autres. En fait, c'est encore une fois une question que je me pose pas trop. Et encore une fois, le bouquin, je l'ai pas écrit aussi dans le sens de dire regardez un peu tout ce que je suis capable de faire. Tu vois, c'est mais je le précise. Voilà, le bouquin a été écrit pour dire moi j'ai fait ça. Je voyais personne écrire de trucs sur Tinder. Je me suis dit bah moi je vais raconter. Voilà, c'est tout. Mais après oui, sans doute qu'en sexualité tu vas trouver évidemment des gens qui font des choses beaucoup plus ouvertes,
Mais toi, pourquoi c'est tabou? C'est parce que c'est quelque chose qui est pas du tout ancré dans ta sexualité? Parce que
non,
d'après
oui,
ce que
voilà.
tu dis, toi-même tu pratiques la pénétration anale en tant que donneur. Donc recevoir, toi, c'est quelque chose qui tu peux pas déconstruire ça.
Et je pense
C'est intéressant. Voilà. Je pense que c'est une question clairement de génération. Et quand t'en parles avec tes potes, ou c'est tabou aussi?
C'est pas un sujet qui vient vraiment... ça va être plus une vanne, en fait, sous la forme de vanne, ce genre d'histoire. Mais après, non, c'est pas vraiment un sujet qui est abordé. Même dans la sexualité, de façon générale, et tout ce que je fais, par exemple, des potes ont commencé à voir que je devenais un petit peu une machine à séduire et à croiser pas mal de femmes et à vivre pas mal de trucs. Mais dans tu vois, je ne vais jamais dans le détail pour dire qu'est-ce que je lui ai fait, comment,
tout ça.
Voilà. Alors, je sais pas, j'ai des amis filles qui me disent, nous, on va plus dans le détail crûment de raconter ce qui s'est passé. Alors, je sais pas si c'est un cliché ou pas, peu importe, mais voilà, des filles m'ont dit, nous, on va un petit peu dans le détail, des groupes d'amis, voilà, des copines avec qui je discute. Mais moi, après, voilà, en tant que mec, je vais pas commencer à faire un tableau Excel détaillé de ce que j'ai fait de ma soirée. Globalement, je vais dire, je suis allé rencontrer une fille, ça s'est bien passé, on a fait ça. Ouais, voilà, c'est global et c'est cool, je vais la revoir. Ça va plus rentrer dans ce genre de discours.
Et les émotions, t'en parles avec tes potes? Est-ce que t'es capable de dire qu'une fille, t'es un peu plus chamboulée qu'une autre?
Oui.
C'est cool.
Mais après, je suis rarement tombé amoureux. Donc, c'est pour ça que je pouvais...
T'as eu une histoire, c'est ça?
Ouais. Je suis tombé amoureux une fois ou deux au collège, lycée, par-ci, par-là. Et donc après, ben, je pense, je suis rentré dans des suites de relations. Alors, est-ce que moi, j'ai fermé un petit verrou et je me suis dit, bon, maintenant, je me pose plus de questions et puis j'avance et il m'arrive plein de trucs et je me pose pas trop de questions. Ou alors, est-ce que naturellement, je tombais pas amoureux? J'avais pas trop la réponse, en fait. Pendant les années où j'étais dans Tinder, je me suis posé cette question. Et en fait, j'ai eu la réponse il y a 6 mois, là.
Alors, avant d'avoir cette réponse-là.
Mais pour revenir
Très belle jeune femme que tu vois et qui existe vraiment, qui n'est pas un mirage.
Ben, en gros,
à avoir une vie sexuelle. Enfin,
sexuelle. Voilà. Donc, tout ça, c'était super. Alors, elle changeait de ville, elle bossait en freelance dans pas mal d'endroits, elle bougeait. Donc, je la voyais par période, etc. Après, je me pose jamais de questions. Par exemple, j'ai pas de notion vraiment de jalousie en mode, mais où est-ce qu'elle va, pourquoi elle disparaît, je vais l'emmerder. Je laisse totalement, moi, dans mon esprit, liberté et indépendance, tu vois, à la personne avec qui je suis, elle fait ce qu'elle veut, c'est pas mon affaire dans mon esprit. Voilà. J'entends souvent des mecs dire, putain, je suis avec elle me donne pas de nouvelles, ça fait 3 semaines, ils me posent des questions. Moi, dans l'esprit, quand elle est dispo et si elle est là, c'est cool. Et si elle veut pas me voir ou qu'elle est autre part, je fais ma vie et puis ça réapparaît quand ça réapparaît. En fait, je n'ai pas dans l'esprit de forcer le destin. Les trucs arrivent naturellement, en fait. Donc, elle était là de temps en temps, des fois non. Voilà, elle faisait sa petite vie. Et le truc, en fait, ce qui se fait que ça s'est mal terminé, c'est qu'à un moment donné, c'est presque imposé dans la colocation où j'habitais. Elle a installé, elle a foutu ses affaires partout. Et elle a commencé à m'expliquer qu'elle allait travailler, m'aider sur des dossiers, rester là, oui. qu'elle voulait récupérer la clé de l'appart. C'était sympa, elle se faisait bouffer. Sauf que l'appart, c'était pas le mien, en fait. Il y avait une colocation dont le propriétaire, il y avait le propriétaire de l'appart, en fait, qui avait un grand, grand et bel appart. Et évidemment, je peux pas laisser une personne, voilà, qui est hors de cette oui. coloc, lui laisser une
et
clé, m'en aller.
Qui est pas dans ta vie.
Et puis. Et voilà, et puis j'avais un tournage qui m'attendait d'une semaine et demie. Je devais partir tourner un truc à Marseille. Et je lui ai expliqué, il faut que tu prennes tes affaires, tout ça, et que voilà, tu partes là parce que je ne vais pas être là pendant une semaine. Et en fait, elle a laissé ses affaires, elle est partie. Non, je dois avoir des copines, on en reparle dans l'après-midi, elle est partie. Et elle a laissé ça, et en fait, elle m'a imposé le truc en disant, je vais rester, ça sera très bien. Et là, par contre, j'ai vu rouge et je n'avais pas de solution. Prendre ses affaires, l'appeler, lui dire, attention, je vais devoir prendre tes affaires, moi, je dois partir. Donc, je te mets tes affaires à la porte, là, à l'entrée. Je t'attends pour discuter. Reviens, mais il n'y a pas d'autre solution. Et donc, elle est venue. Et c'est la première, j'espère, la dernière fois de ma vie que j'ai eu faire ça parce que j'étais gêné puissance 1000. Et elle a pris ses affaires. Elle a joué une comédie, genre, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Et je pense qu'elle s'est dit, j'ai trouvé un petit peu un très bel appart où je vais pouvoir squatter comme bon
ah ouais,
me semble.
Tu penses qu'il y avait l'opportunisme derrière.
Ouais, voilà, mais bien sûr, ouais. Voilà, bien sûr. Donc, à un moment donné, j'avais pas le temps. Elle m'a pris à la gorge et ben, j'ai pas eu le choix que de. Voilà. De prendre ses affaires et d'attendre, et devant la porte, c'était un peu gênant. Donc ça, vraiment, c'est le... Dans 5 ans, c'est la seule histoire où ça fait
ouais,
chier.
C'est pas top,
voilà.
Quoi.
Mais
ouais.
Bon, en fait, j'accepte ça comme une expérience négative, comme il y en a eu d'autres. Mais après, globalement, tout le reste, la quasi-majorité de ce que j'ai vécu, c'est que des moments voilà, rigolos, cool ou charnels. Mais là, entre voilà, la débandade et ça, on a parlé des deux trucs les plus chiants quoi, en 5 ans.
Ok, bon, ça va alors.
Ouais,
est-ce que ça voilà. est arrivé que tu rencontres des femmes ça matche super bien les cris, etc. Et quand tu les vois, le feeling passe pas.
Oui, mais de mon côté, comme en face de femmes que j'ai croisées, bien sûr. Bah oui, forcément.
Dans ces cas-là, ça se passe comment ? C'est quelque chose qui est verbalisé ou c'est...
Ouais. Alors c'est, oui. j'aime bien la franchise féminine globalement, qui consiste. On passe une après-midi ensemble. Je vais donner un exemple. Demoiselle très jolie avec qui on avait discuté beaucoup et on s'est retrouvé donc une après-midi à déambuler en ville, à boire des verres, à discuter, tout ça, à une époque où le Covid n'existait pas. Et en fait, tout s'est passé de façon très charmante, très souriante, tout ça. À la fin, tout simplement, elle m'a dit sur le moment où on s'est quitté, voilà, que c'était un très bon moment et agréable, mais c'est, voilà. Mais par contre, elle avait, en vrai, il n'y avait pas forcément un feeling supplémentaire, il n'y a pas le petit truc où elle se disait. J'ai fondamentalement envie de te revoir par rapport à voilà, tout ce qui s'est passé, mais c'était cool. À un moment donné, voilà, quand on est dans ces applications et qu'on est un peu habitué, on peut être un peu vexé et touché forcément au début quand des trucs comme ça se produisent. Et en fait, après, avec l'expérience, on relativise très vite les choses. On dit, mais c'est logique, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et à distance, avec juste 3 photos et du texte, on ne peut pas être sûr, on ne sait jamais absolument pas ce qui va se passer. Et quand on est du côté de la barrière où on dit à l'autre non, ou alors quand ça nous arrive en face et qu'on nous dit non, ben on se rappelle, nous, quand on a dit non, que c'était pas méchant, qu'il n'y avait aucune intention négative. C'est juste, ben, on sait qu'il n'y a rien de plus à construire après. Donc ça ne, voilà, il n'y a pas de suite, ça n'a pas d'intérêt. On ne va pas se forcer à vivre un truc qu'on n'a pas envie de vivre. Donc inversement, moi, ça m'a, avec le temps, quand j'avais de temps en temps ce genre de réaction, ça ne me posait aucun problème. J'étais un peu triste le soir en me disant dommage. Mais ouais. j'ai vraiment relativisé, un peu comme de la résilience. En fait, ça a appris aussi. En fait, ces applications et toutes ces rencontres m'ont appris une forme de résilience. Où vraiment, je prends un missile, c'est pas grave.
Et t'as jamais eu peur que justement l'appli et ce mode de connexion et de communication prennent trop de place dans ta vie ?
Ça l'a pris. Ça a été, ouais. On peut dire, quand on parle d'addiction avec l'application et la façon dont sont construites un peu toutes les applications, y compris Tinder, avec les notifications et tous ces trucs-là, je peux dire que oui, à un moment donné, j'étais une machine à draguer, à travailler mes mots, à séduire, à rencontrer, à voir ce que ça donne, etc. Et c'était, j'ai eu vraiment une période, un pic pendant un an et demi, vraiment un an et demi, où c'était vraiment, ça bouffait sur mon temps, au boulot, dès que ça clignotait, ou le soir, enfin, c'était vraiment... très clairement, quand on dit que c'est addictif, je suis complètement d'accord. Et ça a vraiment eu cet effet.
Comment tu es sorti de ça ? Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a permis de te réveiller ?
J'ai assouvi tout ce que je voulais en fait dans les rencontres. C'est-à-dire que je suis arrivé à un moment donné.
Dans la sexualité ?
Non, c'est global, c'est tout.
D'accord.
C'est tout. Voilà, les choses que je voulais vivre, démultiplier en expérience, autant que ce soit sexuel. Que ce soit des rencontres, de la drague, tenter des J'ai tenté des coups de drague, des trucs originaux, où j'ai perdu une fille comme ça en la draguant de façon très très originale. J'ai tenté un énorme coup de poker avec une fille à qui je plaisais et je l'ai perdu parce que j'ai voulu tenter un truc très original. Donc voilà, j'ai tenté des expériences.
C'est un peu ce que j'ai fait. C'est intéressant que tu utilises le mot voilà. Je l'ai perdu.
Ouais.
Comme un enjeu, comme une, tu vois, comme un gain.
Bah oui, ça, parce que moi je le perçois pas comme un gain. C'est j'ai perdu l'expérience et la rencontre que j'aurais pu avoir avec cette personne. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Et en gros, on se met d'accord pour aller dîner dans un resto. Et elle me dit, j'attends l'invitation. Mais je dis, je te la lance. Elle me dit, je l'attends, etc. Bon, voilà. Et on se retrouve à... On s'était déjà vu, tu vois. On avait bu un verre, on s'était bien entendu. Et il y avait feu vert pour se revoir. Donc. Et là, je me suis dit, bon, j'ai envie de tenter un truc original. Parce que j'avais eu des discussions avec le fait que parfois, les femmes aiment bien l'originalité, la créativité. Ça fait partie un peu de mes petits trucs que j'aime bien faire. Mm-hmm. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si on le fait d'emblée, si on travaille un truc très créatif d'emblée dès le début. Et donc j'ai passé une semaine à checker, à vérifier les restaurants, les bars, à expliquer que j'allais venir avec une personne, dire son prénom, j'ai acheté des petits objets, des accessoires et j'ai enregistré un audio guide avec des petits messages audio que je lui ai diffusé toute la soirée. Donc j'ai construit tout un environnement pour un rendez-vous wow. Tinder très particulier. Okay. J'ai jamais ouais. pris autant de temps pour préparer un rendez-vous. En gros, les mecs savaient qu'elle arrivait, ils savaient son prénom et j'avais trouvé un petit porte-monnaie avec son prénom. Que j'avais caché donc sur la place principale, bon, c'était à Montpellier, ça je peux le dire, où il y a une espèce de globe lumineux à Noël. Il y avait une petite adresse avec un petit papier caché dans le porte-monnaie avec son prénom et c'était caché ou en plein centre de la place. Et quand on s'est donné rendez-vous le soir, je lui ai diffusé un message, donc j'avais tout préenregistré avec ma voix. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes dans votre rendez-vous avec Jules ce soir. Mais pour commencer, nous vous proposons de découvrir une petite surprise. Juste derrière vous se trouve un globe terrestre. Quelque chose s'y est caché. À tel endroit, allez-y, découvrez et bonne soirée. Elle a eu plein de petits messages de 40 secondes que j'avais préenregistrés. Je m'étais dit, normalement, est-ce qu'elle va voir et se dire, putain, lui, c'est vraiment fait chier pour moi là. Parce que c'est pas un rendez-vous, on va juste, tiens, on va au resto et voilà quoi. C'est juste, tout est préparé quoi. Il y a eu un boulot derrière, il se passait. Voilà, j'ai pris du temps et j'ai essayé d'être très créatif et de créer un truc qui n'est pas vécu dans Tinder de façon normale. Et c'était qui tout double. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, elle était étonnée. Et ensuite, ouais. Elle a pris peur petit à petit dans la soirée. C'est ce qui s'est passé.
Est-ce que tu comprends qu'elle ait pris peur ?
Complètement. On peut se dire, c'est pas classique, donc du coup, c'est anormal, c'est pas rassurant, ça prend pas un chemin normal pour un rendez-vous. Donc j'ai compris. Mais en fait, quand j'ai commencé ça, à préparer tout ce truc-là pendant une semaine, je me suis dit, je savais très bien qu'il y avait des chances que ça ne fonctionne pas. Je le savais très bien. Et je me suis dit, je vais mettre les petits plats dans les grands et je vais pousser la machine créative au max dès le premier rendez-vous. Voilà. Après,
tu n'as pas l'impression que tu t'es fait toi très plaisir sur ce rendez-vous ?
Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben pour moi, c'est partagé puisque dans l'esprit, je m'amuse à le faire. Mm-hmm. Et inversement, en face, dans mon esprit, avant même qu'il se passe autre chose, il y a une surprise quoi. Tu vois, c'est un peu comme à Noël quoi. Mm-hmm. Tu vois, c'est un peu, il y a une surprise mm-hmm. que je mets sur la table et le plaisir de voir la réaction, le partage à cette surprise de tiens, j'ai fait ça, comment, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, donc ça me fait plaisir et j'attends aussi quand même en face qu'elle se dise évidemment putain c'est cool, j'aurais préféré qu'elle se dise putain c'est cool. Et j'ai quelques filles à qui j'ai raconté ça qui me disent moi ça m'aurait plu, mais c'est vrai que ça dépend. Après encore une fois, on est tous différents et peut-être une autre femme que j'aurais croisée à qui j'aurais fait ce truc là se serait dit putain c'est vraiment cool. Et là dans ce cas là elle a juste pris peur et je voyais en fait dans son regard, c'était drôle entre guillemets, mais je voyais la peur s'installer petit à petit et l'inquiétude. Donc on est allé jusqu'au resto, un petit bar, enfin on a fini un peu tout le truc. Et à la fin, voilà, je lui ai dit bonne soirée. Et on a reparlé une semaine après, elle m'a un peu reparlé en me disant c'était too much, ça m'a un peu inquiété, ça m'a un peu stressé. Et puis après, voilà, on s'est dit bonne route. Et puis j'ai jamais eu de nouvelles de cette demoiselle. Mais après, dans les trucs un truc original, je peux raconter, il y a une fille qui m'a donné rendez-vous, elle est chef de chantier, elle était à 100 km de chez moi, elle a fait 100 bornes parce qu'elle avait un chantier de maison de retraite qui était construit à deux pas de chez moi, elle m'a donné rendez-vous à 6h du mat, elle m'a mis un casque de chantier sur la tête et elle m'a dit tu dis rien, on va faire connaissance dans le bâtiment, s'il y a des mecs qui me demandent des trucs techniques, tu réponds oui. Et en fait on s'est baladé dans le chantier toute la matinée et les mecs nous regardaient et nous posaient des questions techniques. Et en fait je l'ai draguée et séduite dans un espèce de bâtiment vide, en fait que du béton, tu vois, avec des étages, mais vide, il n'y avait rien. Un bâtiment en construction. On a fait le jeu de séduction dans ce truc-là, tout simplement. Et alors là, je vais te dire un truc, tu vois, où tu vois une perception un petit peu de macho. Les mecs s'adressaient à moi.
Ouais, ouais.
Alors que moi, j'étais le mec venu, c'était le mec Tinder qui m'est dragué.
Rien du tout.
Non. Et elle, heureusement, elle m'avait briefé. Elle m'a dit, si on te demande un truc, tu secoues la tête. Donc je faisais. Et elle très vite récupérait en fait l'info pour dire, ouais, ça c'est bon, c'est cadré, on va aller signer le papier, le truc. On est resté une heure et demie dans le chantier, tout ça. Tu vois, un truc original. Où là, c'est une fille qui m'a proposé un truc cool. Et moi, en mode ouvert, j'ai dit, ouais, c'est cool, on y va, quoi. Et j'ai pas dit non, qu'est-ce que c'est que ces conneries d'aller dans un truc de chantier à 6h du mat. J'ai dit, ouais, on y va, on le fait, quoi.
Oui, et c'était très bien. Avec ce que tu disais, des choses un peu imprévues, un peu originales, etc. Ça te plaît,
ouais.
Quoi.
La première fille aussi que j'ai matchée, que j'ai rencontrée, je vivais à l'époque en colocation avec un gars, et lui utilisait déjà un peu Tinder avant moi. Et je lui dis, j'ai un petit rendez-vous, machin, etc., je bois un verre, etc. Et il me dit, ouais, bah, cool, amuse-toi bien, voilà. J'y vais. On boit des verres, on passe la soirée. C'est mon premier rendez-vous Tinder, donc c'était un peu bizarre. Donc on parle de ça, tout ça. Et tout se passe bien. Et en fin de soirée, elle me dit, bah, je vais te raccompagner. Tu habites à l'autre bout de la ville, je te raccompagne. J'étais un peu gêné. Je lui dis, ouais, pourquoi pas. Et puis finalement, elle me ramène jusque devant chez moi. Et moi, en fait, j'ai fait un peu le grand prince en me disant, je vais simplement. Je crois que je lui ai simplement fait la bise où j'ai dit bonne soirée en me disant, on se reverra. Je montrais d'un cran, tu vois, un peu à l'ancienne, quoi. Quand je suis remonté, mon coloc me regarde, me fait, bah, ça s'est pas bien passé. Alors, mon coloc a 10 ans de moins que moi. Donc, il m'a regardé avec un air un peu ahuri. Et je lui dis, non, c'est très bien passé, mais je risque de la revoir dans 2-3 jours. Et il me regarde, il me fait, non, tu la reverras jamais. C'est fini, c'est mort. Si t'as rien fait, c'est mort. Moi, je n'ai pas cru ce qu'il m'a dit. C'est exactement ce qui s'est passé. Et à partir de là, de ce premier rendez-vous, je me suis dit, là maintenant, on ne tergiverse plus, on fonce à chaque fois. Et alors peut-être c'était un hasard, mais en tout cas, ce premier rendez-vous m'a là où je me disais je vais y aller doucement, prendre du temps, etc. Et ce qui était un peu brutal, je me rappelle pour moi en premier truc dans Tinder. Et ensuite, je suis parti en Équateur. Et la deuxième fille que j'ai rencontrée, où là vraiment j'ai foncé, bah, c'est une équatorienne en fait. La première fille que j'ai embrassée grâce à Tinder, c'est une équatorienne. Et je parle pas un mot d'espagnol. J'ai un pote en fait qui est diplomate, qui vit à Quito. Et avec 3 potes, ils nous avaient proposé d'aller vivre un mois là-bas et nous faire découvrir le pays, quoi, l'Équateur.
Wow.
En plein milieu de la jungle équatoriale, mon pote a eu un souci de santé, un peu ridicule. Donc il veut pas trop que j'en parle, donc je vais pas trop dire le détail, mais un truc un peu con.
Il a bu de l'eau qu'il fallait pas boire, un truc du genre.
Non, ouais, enfin bon, voilà. Il lui arrive un truc un peu con. Et on était au milieu de la jungle équatoriale, il nous restait une semaine de vacances à voir des volcans, des tas de paysages, des trucs formidables. Et moi, Tinder, je m'en foutais. Hein, c'était rangé dans une poche, j'étais avec mes potes. Ça ne m'a pas traversé l'esprit. Il ne nous restait que 4 jours avant de se tirer de Quito. En fait. Et donc, comme notre pote était à la maison, bah, voilà, solidarité, on est resté avec lui. Et donc, on s'emmerdait. Et là, je me suis dit, putain, mais est-ce que ça marche, ce truc, ici? Et là, je l'ai allumé. Et j'ai matché plein d'équatoriennes. Et les équatoriens, en fait, majoritairement, ils sont tout petits. Moi, je fais 1m93. Le simple fait d'avoir mis ma taille et ma provenance française qui faisait un peu exotique, etc., j'ai eu une pluie d'équatoriennes. En fait.
Carton
plein. Mais moi, je parle pas espagnol. Mon pote à côté, c'était un peu comme Cyrano de Bergerac, il me soufflait les trucs en espagnol pour que je puisse draguer. Et à un moment donné, bon, ça tournait un peu en rond parce que je me disais, je ne pourrais pas tenir, enfin, ça sert à rien, quoi. Un rendez-vous, je peux. Voilà. Et à la fin, j'ai fini par en croiser une qui parlait anglais, un parfait anglais. Et donc, j'ai pu la draguer en anglais. Et le soir, en fait, encore une fois, le goût de l'aventure et du risque, même si c'était très risqué. J'avais un téléphone qui marchait pas, j'avais juste le wifi. Enfin, en gros, je suis parti avec l'adresse sur un bout de papier de mon pote. Et Quito, c'est une ville très étendue. Et je suis monté dans un taxi, j'avais juste l'adresse du bar où elle me donnait rendez-vous. Et j'ai fait 45 minutes assis dans ce taxi tout seul, de nuit, à rouler à l'autre bout de la ville, quoi.
Ah ouais, prise de risque quand même. Hein.
Ouais, j'ai pris. Là, par contre, j'étais ultra. Mais la je sais pas si on dit la dopamine, mais. Je me suis jamais senti aussi vivant que quand j'étais assis dans ce taxi où je n'avais une sécurité proche de zéro. Surtout quand maintenant on lit des histoires avec des mecs qui se sont fait attaquer ou des histoires, des tas d'histoires un peu chaudes. Mais à ce moment-là, moi, ces histoires-là n'existent pas. Hein. C'est un peu les débuts Tinder, machin. On ne parle pas trop de ces histoires. Et je faisais partie de ces gens qui ont tenté en disant rien à branler, j'y vais, quoi. Enfin, j'avais des frissons. Même là, d'en reparler, ça me fait bizarre. Pas où je vais. Je ne sais pas si vraiment qui elle est, qu'est-ce qui va se passer. Je n'avais aucune idée de ça. Mais je me disais, je suis en Équateur. Ça ne se reproduira pas 150 fois dans ma vie. Et encore moins rencontrer une équatorienne dans ma vie. Donc si tu veux le faire, c'est maintenant. Sinon, tu auras des regrets toute ta vie d'un truc pareil. Donc mon pote m'a dit, au cas où, voilà, le papier, l'adresse, le numéro, du bar, tu peux au pire nous envoyer un petit mail. Si un ordi, une connerie, on viendra te chercher au pire. Et voilà, j'avais une petite sécurité comme ça, quoi. Et donc j'y suis allé. Je suis arrivé un peu en retard à cause des bouchons, des emmerdes. Elle était en train de quitter le bar au moment où j'arrivais. Et donc elle m'a vu, elle m'a reconnu. On a discuté. Et en gros, en résumé, hein, on s'est bien entendu. On a discuté plein de trucs.
Quand vous avez discuté en anglais, du coup ?
Ouais, en anglais, de sa culture, de ce qu'elle faisait, de comment étaient les Équatoriens, le pays, de moi, de la France, tu vois, des trucs vachement intéressants en plus, tu vois, sur le papier, c'était cool, quoi. Et après, je lui dis, je vais être franc avec toi, je suis français, j'ai 4 jours. Dans 4 jours, je m'en vais. Donc, en fait, on peut, si tu veux continuer de me voir et tout ça, avec des, voilà, qu'il se passe 2-3 trucs, je suis là 4 jours, je te dis la vérité. Et elle me regarde, elle me fait, ouais, that's nice. Et donc, on s'est embrassé devant le bar, machin, etc. Et comme elle m'a dit que c'était dangereux et tout, elle a pris son pick-up, elle a fait 40 minutes de route, elle m'a ramené jusqu'à chez mon pote à, je sais pas, à 3 heures du mat. Et après, le lendemain, elle a présenté des copines à elle. Donc, du coup, on est ressorti en soirée, etc. On a fait des soirées en boîte de nuit, machin, à Quito, avec la fièvre latine. Enfin, les boîtes de nuit n'ont rien à voir avec la France. Hein. C'est juste, enfin, c'était juste extraordinaire. Et donc, les copains étaient contents parce que bah, la petite chérie que j'avais avait ramené d'autres copines de Quito. Et voilà. Et donc, bah, ça a duré 4 jours. Et j'ai adoré, c'est con ce que je veux dire, mais j'ai aussi adoré, comme dans un film, les adieux. Parce que c'était très intense. Ça a duré 4 jours. Et au bout de 4 jours, c'est très bizarre de te dire que tu as eu un truc un peu intense comme ça avec quelqu'un et que d'un coup, ça s'arrête, tu vas faire 10 000 bornes et très probablement, tu ne te reverras jamais. Et les adieux, c'était fort. Déjà, tout le voyage et ce que j'ai vécu était fort. Mais alors, ce truc-là, voilà. Et donc, tu vois, pour revenir juste au retour dans l'avion et je reviens en France, pour moi, Tinder, c'est ça, quoi. C'est ça ce que j'ai vécu. C'est pas des petites rencontres dans un bar, c'est un peu foireux, ça marche pas. Moi, j'ai eu des trucs comme ça qui étaient cool et qui m'ont juste convaincu de dire putain mais il faut continuer quoi, c'est juste fabuleux quoi, voilà.
Ouais, c'est super ce que tu racontes parce que ça mêle l'aventure, la rencontre, ce que l'homme a de et la femme, enfin voilà, l'homme en général a de bon, c'est-à-dire l'ouverture vers l'autre, enfin c'est vrai que ça abrace beaucoup de belles valeurs, donc c'est vrai que c'est pas forcément ce à quoi on pense quand on pense à Tinder, c'est sûr.
Ben oui, c'est ça. Après, c'est, je pense, ça a rapport à la psychologie des gens, quoi. Je comprends encore une fois qu'il y a des mecs qui utilisent l'appli pour chasser, coucher avec un maximum de meufs et puis rentrer chez eux. Je les comprends. Je sais que ça existe. Je le valide pas comme comportement parce que c'est pas le mien. Mais moi, le mien, c'est pas forcément d'avoir un rapport sexuel. C'est qu'il m'arrive un truc. Que j'ai eu une aventure avec une Polonaise qui débarquait en ville pendant tout l'été. Et je lui ai filé un bouquin que j'adorais. Elle a mis des annotations. Elle est revenue 2 jours plus tard. Elle me les a annotées. Elle m'a dit, vas-y, lis-moi les annotations dans le bouquin que j'ai beaucoup aimé. Et je me retrouve assis, je dis, sur le plus beau coussin du monde. J'étais assis sur ses fesses, c'était sur le dos. J'avais le bouquin. Et j'étais en train de lire les petites annotations du bouquin que j'adorais. Et je lui relisais les annotations qu'elle m'avait mises avec des petits trucs de couleurs dans le livre. Et on débattait des phrases de ce bouquin qui étaient intéressantes. Et on débattait de ces trucs-là, voilà. Et on a couché ensemble, etc. Mais tu vois, dans ma tête, le premier souvenir qui me revient, truc-là, c'est ce moment-là, voilà. J'aime le sexe, j'aime tout ce que on peut parler après de sexualité. Mais en fait, pour moi, tu vois, il y a des petits moments par là. Moi, je sais pas comment ça marche pour les autres ou pour toi, tu vois, on pourrait en parler. Mais j'ai des petits moments et parfois, juste ça, je me dis putain, mais ça valait la peine, quoi. Mais ça valait la peine, quoi.
Mais c'est super que tu racontes ça parce que c'est aussi tout ce qui fait la beauté.
C'est pour ça que j'essaie d'expliquer, tu vois, entre l'histoire d'une qui me drague sur un truc de chantier, cette demoiselle et ces petits moments un peu suspendus, ou des moments rigolos un peu honteux. C'est un peu tout ça, en fait. Pour moi, c'est un résumé en accéléré de la vie. Et comme moi, je ne suis pas dans une démarche forcément purement de sexualité, mais plus de qu'est-ce qui va m'arriver. Et voilà, il va se passer de multiples choses et qui ne sont pas forcément que la sexualité. Et moi, en tout cas, ça me nourrit, ça me plaît. Je suis. Voilà, c'est des choses que j'aime, en fait. Tu vois, tu me demandais qu'est-ce que tu cherches. Je pense qu'avant la sexualité, moi, dans mon esprit, Tinder est un outil pour aller vivre des moments de vie un peu, entre guillemets, extraordinaires, ou même de les. Pas des provoquer, mais. Enfin, oui. Si, un petit peu aussi.
Des femmes que tu rencontrerais pas forcément, justement, dans l'entre-soi dont on parlait tout à l'heure. Et là, au moins, tu t'ouvres.
Il y a une autre demoiselle que j'ai rencontrée, on s'est matché, on était à 200 km. J'ai fait les 200 bornes pour aller la voir. Et elle m'a dit, tu pourras dormir à la maison, etc. Ce qui s'est passé, c'est que tout le week-end, il y a eu une tension sexuelle. C'est-à-dire qu'on savait pourquoi on s'était croisés, on avait discuté et tout ça, machin. Mais, comment dire, le premier soir, on a dîné dans un restaurant. On est allé dans une espèce de bar-boîte qui ferme à 5 heures. On a dansé collé serré, on était complètement déchirés. Mais on est rentré tellement déchirés qu'il ne s'est pas passé grand-chose et on s'est couché. Et ensuite, on s'est levé le matin un peu fatigué, on a pris une douche, etc. Mais tu vois, ça n'a pas enchaîné sur quoi que ce soit. Et donc, tout le week-end s'est déroulé en mode, tu vois, banalité. On va là, on n'a qu'à aller visiter tel truc, on fait ci, on fait ça. Et je n'ai pas vraiment poussé le truc, elle non plus. Et puis à un moment donné, on est arrivé dimanche à 18h, tu vois, un truc comme ça. Et moi, mon train était à 19h, tu vois, une connerie comme ça. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais au moment où il restait quasiment presque pas de temps, en fait, je lui ai sauté dessus. Parce que je sentais que c'est très bizarre, hein. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça avant, Mais voilà, c'est avancé tout doucement. Peut-être que j'avais pas assez de signes. Je me dis, je sais pas, est-ce que. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai hésité. Ça a été ma baise la plus bestiale que j'ai jamais faite de ma vie, quoi. Ça a été sauvage, rapide, brutal. Le truc, comme dans les, encore une fois, comme dans les films où le matelas, l'espèce de truc en bois de son lit s'est pété. Enfin, ça a été un truc de fou, quoi. Mais c'était express, brutal en un quart d'heure. Et à la fin, je suis parti. Elle m'a juste regardé avec un petit sourire. Elle m'a fait, c'était pas trop tôt. Et je suis parti.
Wow.
Donc voilà, c'est d'autres trucs cool.
Ouais, que d'histoires. En tout cas, c'est chouette. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, elles sont dans un bouquin, donc tout le monde pourra les retrouver. Je mettrai la référence du livre dans les notes du podcast, évidemment. Jules, qu'est-ce que tu aimerais tester dans la sexualité avant que tu dévoiles qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrêtes Tinder et quelle est ta vie aujourd'hui, même si... Mais qu'est-ce que tu aimerais tester dans ta sexualité? Est-ce qu'il y a encore des choses
Je pense, comme on disait tout à l'heure, je suis un peu old school, etc. Donc, peut-être au plus loin, ça, des trucs qui seront peut-être classiques pour les gens qui écouteront ça, mais c'est tout ce qui est trucs libertins ou à plusieurs, des machins comme ça, ça me déplairait pas, je pense.
Ouais.
Y a aussi l'aspect, le milieu du porno. Comme en fait, je travaille dans un milieu où j'utilise beaucoup les médias, etc. Et je fais je bosse pour des boîtes dans un milieu autour de tout ça. Ouais, me rapprocher de, alors pas devenir acteur porno, hein, mais peut-être filmer ou mettre en scène, en fait, tu vois, c'est un peu un truc. Quand je regarde parfois des vidéos
porno,
toi qui
aimes raconter des histoires, en tout cas,
Elles sont nulles à chier, quoi. Et en fait, les trucs porno sont nuls à chier, voilà. Et moi, je suis un mec. Alors, je comprends, tu vois, genre, on voit bien que 95% maintenant de ces trucs-là, c'est, ils sont à poil, tac, c'est parti. Bon, ils font tout ce qu'ils ont à faire, divers et variés, puis c'est fini. Et moi, en fait, en vivant des situations où je suis un peu frustré, un peu excité, je me dis des petites mises en scène, même courtes. Mais l'idée de mettre en scène différemment ces choses-là, c'est un truc qui me plairait bien et de baigner dans cet environnement-là et de travailler sur ces trucs-là. C'est entre guillemets pas le truc érotique ni le truc porno, mais un truc entre les deux.
Tu consommes encore beaucoup de porno aujourd'hui ?
Ouais. Après, je pense. Après, je sais pas si ça dépend des mecs, ouais, mais c'est un truc que j'aime bien, ouais.
Ça dépend. Il y a des hommes qui en regardent à ce micro. Il y a des hommes qui en regardent tous les jours et d'autres qui en regardent, tu vois, une fois de temps en temps, genre une fois par mois ou une fois par semestre ou une fois par an ou même pas du tout.
Ça peut être, ça peut être excessif pendant 2-3 jours d'affilée. Je sais pas trop pourquoi. Et parfois pendant une semaine ou deux, ça, non, pas du tout. Ça dépend. Après, dans des trucs non assouvis, je dis souvent, je parle souvent à des filles que j'ai un peu draguées dans Tinder. J'ai un fantasme qui ne peut pas fonctionner à partir du moment où j'ai parlé, en fait. C'est le principe de pas un mot.
Ah oui.
Voilà, pas un mot, tu sonnes, tu arrives, du sexe, enfin le sexe avec une inconnue. Ou genre, je dis n'importe quoi, tu es dans un avion, sur un bateau, n'importe quoi. Et juste avec le regard, un truc se déclenche et qu'il se passe quelque chose de sexuel, de charnel, bien, bien passionnel, et sans vraiment qu'il y ait de blabla, qu'il n'y en ait pas du tout, en fait. Voilà.
Il y a l'épisode 2 avec Fabien qui raconte cette histoire-là, qu'il a vécue avec
Fabien, je t'adore, t'es mon héros. Voilà.
Ouais, il a vécu ça, effectivement. Alors, c'est... En plus, il le raconte super bien et ils avaient mis un espèce de safe code entre eux pour pas que la jeune femme soit trop en panique non plus, parce que parfois l'angoisse aurait pu, tu vois, un peu, voilà. Mais c'est super, super bien raconté, je t'invite à l'écouter, c'est le deuxième épisode. Qu'est-ce qui s'est passé alors du coup pour que tu arrêtes Tinder et que maintenant tu y es beaucoup moins ?
Alors, j'ai pas arrêté, parce qu'on dit souvent, j'ai pris l'application, je l'ai enlevée, je l'ai remise, elle est toujours dans un petit coin, on va pas se mentir. Après, oui, ça s'est vraiment calmé déjà, je dirais, il y a un an et demi. Il y a vraiment une frénésie où j'arrivais, comme je te disais, à rencontrer beaucoup des tas de femmes. Comme pour tout, je pense, tu arrives à un moment où tu dis, ça y est, j'ai fait là le... En fait, tu sens que le truc que tu voulais assouvir, c'est quand même assouvi dans les grandes lignes, quoi. J'ai rencontré ce que je voulais rencontrer. J'ai dragué comme je voulais draguer, j'ai tenté des trucs originaux que je voulais tenter, j'ai raté des trucs de façon lamentable, c'est fait, c'est comme ça. Mm-hmm. Et c'est un peu global où je me suis dit, j'ai fait pas le tour de la question, mais une forme, pas de lassitude, mais j'ai fait le tour, en fait, ça y est. Voilà, ça s'est transformé un peu comme ça. Et après, je suis devenu beaucoup plus sélectif, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus rare que j'allume l'appli. Et de temps en temps, pourquoi pas, mais je suis devenu un petit peu délicat et... Mais j'ai senti que ça a vraiment, il y a une courbe descendante petit à petit. Et pour terminer l'histoire, on va arriver juste à la date de juin 2020.
Ouais.
le confinement battait son plein. Je crois que c'était en mars-avril où ça a commencé. Enfin, le premier confinement.
Ouais, ça a commencé le 16 mars.
Voilà, donc on était tous enfermés. Donc bah, moi, comme beaucoup de personnes, j'étais enfermé dans mon petit coin. Je faisais un peu... Et je suis tombé sur une petite demoiselle, une Italienne, qui j'ai pas mal échangé. Et j'aimais bien, elle avait ce petit charme italien de l'accent, parce que souvent, un truc que je dis pas, mais j'utilise beaucoup la voix. C'est-à-dire que dans Tinder, on utilise les mots, donc j'utilise beaucoup aussi l'aspect littéraire avec les mots, mais très souvent, je bascule dans WhatsApp ou des trucs comme ça. En fait, j'appelle, parce que je trouve que la voix, ça donne beaucoup d'infos, c'est-à-dire l'intonation, le ton, les mots utilisés, la chaleur dans la voix ou pas. Il y a plein d'infos, on s'en rend pas compte, mais c'est très très important pour moi en tout cas. Et donc, avec cette demoiselle, on a commencé à discuter par petits messages audio, etc. Donc, on a pas mal fait connaissance. Pour la faire courte, petit à petit, on s'est vu. Au début, entre guillemets, elle payait pas de mine. Je la trouvais sympa, comme ça, mais sans plus. Et elle, c'était un peu pareil, quoi. Et en fait, on est resté 6 mois ensemble. Petit à petit, je me suis habitué. Et en fait, je suis tout simplement tombé amoureux d'elle.
Wow. Voilà.
C'est ma dernière... là, je te parle de ma dernière histoire, là, qui a duré de juin jusqu'à mi-septembre de l'année dernière. Et tu vois, déjà, juste, ça a donné une réponse aussi au fait que je me disais, mais je tombe pas amoureux, qu'est-ce qui m'arrive ? Avec toutes les filles que je rencontrais, en fait, ça m'a réconcilié avec moi-même, parce que je me suis dit, ah si, en fait, je tombe amoureux, c'est juste que c'est rare. Déjà, me rendre compte de ça avec elle m'a rallumé le truc en me disant, ah mais si, en fait, je tombe amoureux, quand vraiment ça se produit, ça se produit. C'est pas moi qui m'empêche de tomber amoureux avec toutes les filles que j'ai croisées. C'est juste qu'on sait pas pourquoi, hein, le fameux miracle d'un truc, on sait pas pourquoi ça se déclenche. Et donc, moi, j'étais très amoureux, et ça s'est arrêté pourquoi ? Parce que. Elle n'était pas amoureuse de moi, elle m'aimait bien, elle m'appréciait, ma compagnie, etc. Elle trouvait ça bien. Mais après, il y a eu ça, donc elle n'était pas forcément amoureuse. Et elle a trouvé un très bon boulot dans le nord de la France, dans une grosse ville. Et en fait, c'est terrible parce que elle a failli rester à 40 bornes de là où j'étais. Donc peut-être ça aurait continué un peu. Mais elle a pris le boulot qui était dans le nord de la France à 900 bornes, quoi. Tu te dis, je respecte son choix. Et comme moi, qui étais aussi avec des femmes avant, où. Parfois, certaines femmes m'ont fait comprendre que elles voulaient aller plus loin et moi, je voulais pas, faire de peine, où je sais que moi, il n'y a pas le petit truc en plus, donc il vaut mieux arrêter, prendre de la distance. J'ai parfaitement compris, même si j'étais triste, parce que tu te retrouves dans la position de celui qui n'est pas l'élu. Donc je suis arrivé à ce stade et où là, maintenant, tu sais, quand tu es dans une position où tu es amoureux, où tu es en face de quelqu'un, où le simple fait de t'allonger à côté de la personne et d'être bien, tu vois, ce genre de sensation toute con, en fait, que moi, je n'avais jamais trop ressenti dans ma vie. Et là, je lui ai expliqué, elle le savait. Tu sais, des trucs complètement stupides, tu dis, putain, je suis trop bien, on fait ça, c'est complètement anodin, mais c'est génial. Tu peux pas, là, je me suis rendu compte, c'est difficile maintenant pour moi de retourner dans Tinder parce que j'aurais moins bien. J'aurais plus ça. Tu comprends ? Ou alors, peut-être, je le recroiserai sur un coup de chance, mais monumental. Mais de toute façon, là, et j'en ai parlé, mon esprit, maintenant, là, il est formaté dans le sens où j'ai vécu un truc qui m'a tellement plu. Je ne m'en suis pas vraiment rendu compte sur le moment, mais je m'en rends compte encore plus maintenant, malheureusement. Tu vois ? Alors, j'avais conscience que j'étais super bien avec elle, mais je n'ai pas vraiment analysé que j'étais amoureux. Ouais. Mais après, plus tard, oui. Et encore une fois, j'ai utilisé les mots parce que quand elle est partie, j'ai eu besoin de l'exprimer, ce que je ressentais et tout ça, et de ce que j'avais ressenti avec elle. Et donc, j'ai jamais écrit un texte aussi long. Je lui ai écrit des pages et des pages. Elle m'a inspiré. C'était comme une muse, quoi. Tu vois. Il y a eu vraiment, tout sur la ligne amoureux. Et donc, je lui ai écrit, je sais pas combien de pages où je vais parler d'elle, de moi, de la relation, de tout ça. Enfin, j'étais inspiré, mais de ouf, quoi. Donc voilà. Donc pour l'angle là, en fait, ce truc là, en fait, voilà, je suis tombé au bout de 4-5 ans, je suis tombé sur une fille où je peux, tu vois, je peux le dire sans problème, je suis tombé amoureux d'elle et je suis toujours amoureux d'elle sur le papier. Là, pour l'instant, voilà, dans le Tinder, rencontrer tout ça, ça n'a pas de sens en fait là, ça n'a pas de sens. Ouais, mais j'ai pas de regret, il n'y a pas de regret, je suis très heureux de tout, je suis très heureux de l'avoir croisé, tout est cool. Et après ces 4-5 ans, et être arrivé sur cette espèce d'apothéose un peu, ça a fait un peu ça. Là je suis un peu arrivé un peu, tu vois, voilà, j'ai fait mon trajet et j'arrive avec ce truc de fin incroyable qui se termine pas forcément comme je l'aurais voulu. Et là, voilà, je suis au bout du truc un peu. Il y a pas le précipice, mais maintenant, je vais où ? Qu'est-ce que je vais faire ? Et je ne sais pas.
Oh, c'est intéressant, cette croisée des chemins, parce que effectivement, ça s'est arrêté il y a quoi ? Il y a 5 mois.
Ouais.
Donc, du coup, qu'est-ce que tu te souhaites, là, pour le futur, Jules ?
Je prends souvent des phrases un peu généralistes, mais c'est tout simplement d'être heureux. Parce qu'après, c'est forcément... T'as un mécanisme, entre guillemets, on va dire, de l'oubli. Et puis voilà, le temps passe, etc., les choses reprennent. Et c'est de recroiser peut-être quelqu'un. Alors après, peu importe que ça repasse par Tinder ou dans la vraie vie ou quel que soit le chemin, en fait, peu importe. Mais voilà, que je recroise quelqu'un et avec qui ça se passe aussi bien, voire voilà, enfin, je vais pas dire voire mieux parce que ça veut rien dire. Quand t'es amoureux, ça, tu peux pas aller au-dessus, quoi. Donc un truc dans le même genre à revivre et où ce coup-là, ouais, ça fonctionne bien dans la relation des deux côtés, que ce soit partagé, que ça fonctionne, ouais.
Ce sera quoi le mot de la fin?
Hola bracadabra.
Ok, hola bracadabra. Merci infiniment.
Avec plaisir.
Merci pour votre écoute et merci infiniment à Jules pour sa confiance. J'espère que vous avez passé un bon moment et n'hésitez pas à laisser une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts et un avis positif et idéalement. C'est grâce à vous que le podcast grandit et gagne en visibilité. J'en profite pour accueillir tous les nouveaux auditeurs et auditrices. C'est vraiment un plaisir de savoir que ce podcast vous plaît tant. N'hésitez pas à venir sur la page Instagram et sur la page Facebook du podcast. C'est toujours un bonheur d'échanger avec vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de On the Verge.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.